France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Est-ce qu'on aurait gagné du temps si le Premier ministre avait fait son discours il y a un mois ou deux? Ça n'aurait pas empêché les manifestations et grèves, probablement, car sur les points qui fâchent, rien ne change. Les régimes spéciaux sont terminés, leur enterrement a été acté. Ce qui bouge éventuellement, c'est le calendrier. Ce qui ne bouge pas non plus, c'est le fameux âge pivot de 64 ans, celui qui met la CFDT hors d'elle. Même si, rendons au Premier ministre ce qu'il a dit, les carrières longues ne sont pas concernées que techniquement. L'âge légal de départ à la retraite reste à 62. Est-ce que les choses auraient changé si le Premier ministre avait parlé avant? Pas sûr donc, mais au moins là les choses sont sur la table avec plus de précision, les dates surtout. Et vous avez sans doute comme moi vu les premières réactions sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le pays se diviser entre ceux qui sont nés avant et ceux qui sont nés après 1975. L'âge pivot là pour le coup, c'est bien celui-là. Dans la rue, la détermination, elle, ne faiblit pas. La fédération CGT Cheminots a même appelé à durcir le mouvement. La CFDT a annoncé que sa ligne rouge, donc sur les 64 ans, avait été franchie. Même tonalité sur les choses plus catégorielles, comme par exemple l'augmentation de salaire des enseignants. Les lignes de contestation, là, n'ont pas tellement bougé. Celle du soutien au mouvement, on en a une idée sur un sondage de lundi qui parlait de 68% de soutien à la grève. Ça mériterait évidemment d'être resondé aujourd'hui, mais voilà. Voilà où nous en sommes et on en parle ensemble, c'est parti.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et vous le savez, ce soir, donc, vous avez pris l'habitude, maintenant il n'y a pas d'appel, on ne vous entend pas à l'antenne, mais on lit vos questions à l'antenne. Je vais commencer par la question de Sébastien, qui est né en 1982. Je pense que beaucoup de gens vont nous donner leur âge ce soir. J'ai été titularisé très tardivement, nous dit-il, j'ai été titularisé, j'avais 28 ans. J'ai été licencié, j'ai été réembauché, et il y a peu de chances pour que ma carrière soit réellement linéaire. Et je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui si ma retraite à points sera plus avantageuse que si j'étais calculé par trimestre. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Pour essayer répondre à toutes vos questions ce soir, parfois techniques, parfois j'espère moins techniques, Dominique Méda est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous êtes directrice du laboratoire de sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine. Bonjour à vous Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Directeur du département Opinion de l'IFOP. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle L'Archipel français, publié au Seuil. Yaël Gauze est là aussi, chef du service politique de France Inter.
Bonsoir.
Derrière la question spécifique de Sébastien, Jérôme Fourquet, il est dit qu'il y a eu une forme de clarification, effectivement, parce que beaucoup de gens nous donnent leur âge. Mais derrière, c'est toujours très compliqué de savoir. Est-ce qu'on peut même aider Sébastien à répondre à cette question? Est-ce qu'il est mieux loti avec les points? Est-ce qu'il serait mieux loti avec les trimestres? On n'en sait rien.
Alors, en tout cas, personnellement, je n'en sais rien. Je pense que c'est encore très, très technique. On est sur des modalités de réforme de ce système des retraites qui est déjà... était assez peu maîtrisé par nos concitoyens. On avait quand même l'idée qu'il y avait ces trimestres, mais comme disait Sébastien, quel trimestre, dans quel régime,
hein.
Et donc,
sûr,
vous vous souvenez que il fallait reconstituer sa carrière, avoir tous les bulletins de paye, etc., etc. Et donc là, on rajoute une nouvelle étape de complexité, de perplexité, ce qui, de notre point de vue et vu notre fenêtre d'observateur de l'opinion, n'est pas pour rien. Dans l'attitude, j'allais dire spontanément assez prudente et opposée d'une majorité de nos concitoyens sur cette réforme.
Le fameux sondage à 68% dont on parlait par exemple.
Voilà, qui consiste à dire on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants, mais on se met dans l'idée que on est plutôt sur quelque chose qui va nous faire du moins que du plus. Mm-hmm. À l'arrivée. Et donc, effectivement, c'est très très compliqué de répondre à cet auditeur. Vous avez parlé de l'âge de 1975, du coup, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est le fait que ceux qui ont commencé à travailler avant cette date, ou qui sont nés avant cette date et travaillaient avant, auront une partie de leur carrière comptabilisé sur l'ancien modèle et la fin de la carrière comptabilisée sur le nouveau modèle. Donc,
ajoute à la complexité.
Qui ajoute énormément à la complexité et donc, du coup, qui nourrit sans doute l'attitude d'avoir une position très réfractaire.
Dominique Méda, au-delà effectivement de la technicité, peut-être que la première vraie erreur, c'est celle-là, en fait. C'est un flou dont on n'arrive finalement pas à sortir, même là avec des explications peut-être un peu plus claires de la part du Premier ministre.
Et en effet, et l'autre point quand même qui est tout à fait dommageable, c'est j'ai l'impression qu'on est en train de vraiment de dresser les Français les uns contre les autres. Les jeunes contre les vieux, ceux qui seront dedans et ceux qui ne seront pas dedans. Bientôt, ça va être les grévistes contre les non-grévistes, parce qu'évidemment, ça va à un moment, l'opinion va tourner, les gens vont être exaspérés. Et moi, le point aussi que je veux souligner, c'est quand même que là-dedans, on a des jeunes qui sont doublement pénalisés, quoi. Parce qu'ils sont pénalisés parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à rentrer sur le marché du travail, et ils vont être en plus pénalisés par une réforme, ce régime à points qui, quand même, fait perdre beaucoup de pensions. Je veux dire, il va évidemment y avoir un taux de remplacement moins élevé avec ce régime à points.
Je vous ai vu, Jérôme Fourquet, Yael, et puis ensuite on viendra vers vous, Yael, pardon.
Moi, j'aurais beaucoup aimé répondre à notre auditeur internaute. Le problème, c'est que le gouvernement, même s'il est de bonne foi dans sa communication d'aujourd'hui via Édouard Philippe, se piège lui-même par la complexité du dispositif. Et là, je viens de reprendre le calendrier de ce qui a été annoncé par Édouard Philippe. Et ce n'est que fin 2020, donc fin de l'année prochaine, qu'un simulateur permettra à chacun de calculer sa future pension de retraite. 3 à 6 mois après le vote qui est censé démarrer l'examen de la loi fin février, Conseil des ministres fin janvier, donc après il y a tout un parcours législatif, et c'est seulement une fois que la loi est votée qu'on attend 3 à 6 mois et qu'on pourra faire un simulateur crédible.
Est-ce qu'on aura,
c'est très loin.
Parce qu'on aura à ce moment-là une valeur du point ou pas, parce que si on n'a pas la valeur du point réellement, de toute façon on peut toujours essayer de simuler.
Elle est conditionnée au travail que les partenaires sociaux feront ou ne feront pas s'ils approuvent la réforme et s'ils rentrent dans le dispositif de cette réforme des retraites. Et c'est seulement là qu'on aura vraiment les choses fixées, indexées, donc on le sait, sur les salaires et non pas sur l'inflation, mais une valeur de points qui doit être définie par les partenaires sociaux après aussi le vote de cette loi. Donc c'est très long comme temps pour connaître et être transparent sur sa retraite.
Jérôme Fourquet.
Oui, c'était pour poursuivre sur ce que disait Dominique Méda. On a beaucoup comparé le début de ce mouvement social avec ce qui s'était passé en novembre-décembre 1995. Et il y a une différence qui est quand même assez importante, en tout cas à ce stade de développement du mouvement. C'est qu'à l'époque, à côté des salariés du public et des régimes spéciaux, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient rentrés dans ce mouvement. Il y avait un certain nombre d'universités qui avaient été bloquées, qui étaient occupées. Et aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on se parle, la situation sur les campus est relativement calme. En tout cas, il n'y a pas de convergence des luttes. Parce que, comme disait Dominique Méda aussi, il y a quelque chose qui est en surplomb tout à fait, de manière tout à fait nette. Et nous, on le voit dans les enquêtes. Dans la jeunesse, est très fortement ancrée l'idée que le système des retraites aura eu le temps encore de bouger 3 ou 4 fois et que les règles qui s'appliqueront à ceux qui n'ont pas encore commencé à travailler sont aujourd'hui totalement hypothétiques. Et donc c'est pour ça aussi sans doute que cette convergence ne s'est pas faite. De manière un peu résignée, ces jeunes regardent une bataille se dérouler à laquelle ils pensent qu'ils ne sont pas aujourd'hui associés.
Et précisément, Dominique Méda.
Et je pense que ça restera assez anxiogène de toute façon ce système, parce que ce que disent les spécialistes, le jargon, consiste à dire qu'on est en train de passer d'un système à prestations définies à un système à cotisations définies. Donc on sait ce qu'on cotise, mais on ne sait pas du tout ce qu'on aura. Ça, c'est hyper inquiétant. Donc il y a tout ce que vous disiez sur le temps qu'on va devoir attendre. Et puis ensuite, moi, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais exactement ce qu'on touchera dans ce système.
Est-ce qu'on saura exactement ce qu'on touchera dans ce système, Yael Gauss? Est-ce que
même,
vous l'avez compris?
C'est quand même l'objectif du gouvernement, mais le problème, c'est qu'ils affrontent aujourd'hui des simulateurs qui reposent aussi sur du vent, sur des choses qui ne sont pas stabilisées. C'est tout le problème de ce que le gouvernement dénonce comme des fake news, notamment pour les enseignants. Mais ils n'ont pas en face le simulateur tout prêt et rapidement prêt pour contrebalancer ces fake news.
Alors, il y a beaucoup de questions d'enseignants ce soir. Je vais d'abord vous donner celle d'Amélie. On parlait justement de la difficulté de ceux qui ne comprennent pas effectivement comment les choses pourront être calculées et surtout ce qui est pérenne, en fait. Amélie nous dit « Je suis née avant 1975, donc a priori, je ne suis pas concernée. Mais je me demande ce qui empêcherait un gouvernement prochain de modifier les calendriers. Sont-ils, oui ou non, inscrits dans la loi ? Et même question sur l'inscription dans la loi de l'indexation des points sur les salaires. Est-ce que, oui ou non, on peut dire à des gens comme Amélie que une fois qu'on aura compris et qu'on aura pu calculer, que de toute façon, ces choses seront immuables ?
Alors, c'est là aussi une vraie difficulté, parce que ce que la loi fait, la loi peut la défaire. Ben
oui,
c'est-à-dire
absolument.
Que le gouvernement peut tout à fait de bonne foi, en disant on a sanctuarisé la valeur du point, les protocoles et les méthodes de calcul, mais on a déjà vu, et les Français ont la mémoire longue, dans notre histoire récente, un certain nombre de gouvernements qui sont revenus sur ce que des gouvernements précédents avait voté. Donc ça aussi, ça crée beaucoup d'instabilité et d'incertitude. Amélie, sans doute, doit se dire, il se peut que dans 15 ans, si la France à ce moment-là connaît une nouvelle crise financière, eh bien le gouvernement qui sera en responsabilité pourra de bonne foi dire, écoutez, il y avait des règles qui valaient dans une configuration donnée, aujourd'hui c'est force majeure, il faut qu'on bouge. Rappelez-vous ce qui s'était passé au moment de l'ouverture du capital de Gaz de France. Mmh. On avait indiqué qu'on avait bloqué à 70% la part de l'État. L'État ne pouvait pas descendre en dessous. Et les gouvernements d'après, pour des questions budgétaires, ont fini par faire sauter ce verrou-là. Donc, cette idée que rien ne soit complètement stabilisé pour quelque chose qui compte beaucoup pour les Français est sur le principe très anxiogène.
Dominique Méda ?
C'est pour ça que l'on comprend bien pourquoi les enseignants ne croient pas dans la promesse qui leur est faite de revalorisation massive de leur prime ou de leur salaire. Puisque, comme ils risquent de perdre 30%, nous dit-on, alors on va leur augmenter leur salaire de 30% sur 10 ans. Mais pourquoi est-ce qu'ils croiraient à ça alors que jusqu'à maintenant, on leur a pas augmenté du tout leur salaire.
C'est ce que dit Céline. Comment les enseignants peuvent-ils être rassurés? Les promesses de revalorisation sont trop vagues. On a l'habitude et rien ne vient jamais. Comment accepter de travailler jusqu'à 64 ans en maternelle pour une retraite de misère?
Je peux juste dire un truc.
Bien sûr.
Mais c'est que c'est quand même bizarre parce que ce gouvernement, mais pas seulement lui d'ailleurs, on a toujours l'impression qu'ils mettent la charrue avant les bœufs, quoi. C'est-à-dire, on nous dit on va vous sécuriser les trucs en faisant cela et puis on commence toujours par la mesure qui flexibilise au lieu de commencer par celle qui sécurise. Donc là, on aurait pu dire, ok, on va augmenter assez massivement vos salaires pour que vous repreniez confiance, et après on fera cette réforme. Mais là, c'est la charrue avant les bœufs.
Yaël,
pour répondre à Amélie, je reviens un tout petit peu en arrière. Oui, non, mais par rapport à la stabilité ou pas de cette réforme, ouais. Donc elle n'est pas de niveau constitutionnel, effectivement, Jérôme le disait, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que ça va devenir une bataille présidentielle. Vous allez très vite avoir les futurs candidats à l'élection présidentielle 2022 qui vont dire... Vous voulez encore Macron avec la réforme des retraites qui va avec, ou vous voulez qu'on revienne en arrière ou qu'on reste sur le régime actuel, voter pour d'autres candidats. Mmh. Ça va devenir très vite un élément de campagne. Et vous avez déjà Marine Le Pen qui est sur l'idée du référendum pour trancher la question. En réalité, c'est en 2022 certainement que le débat sur les retraites fera rage. Oui.
Mais c'est pour ça qu'on a ce genre de réaction politique, Yaël, en ce moment. Personne, pour l'instant, ne se range derrière cette réforme et derrière Emmanuel Macron. Mais on sait aussi qu'il y a quand même beaucoup de manœuvres politiciennes qui jouent aussi derrière le fait de ne pas se ranger en ce moment.
Alors après, il cherche un chemin, Emmanuel Macron, entre Rassemblement National et Insoumis qui disent 60 ans, la retraite à 60 ans, mais financer comment, c'est la question, et une droite qui pense avoir la réponse sur l'âge légal à 65 ans, c'est la primaire Juppé-Fillon, souvenez-vous, de 2016. Donc lui, il cherche un chemin entre les deux.
Jérôme Fourquet, avant une prochaine question.
Oui, juste pour revenir sur la complexité de la situation pour les enseignants, si tant est qu'il y ait une revalorisation du salaire pour compenser les pertes à la retraite, comme il y a cet âge, cette clause d'être né en 1975, comment on va faire? C'est-à-dire que certains vont être augmentés et d'autres non, parce que les modes de calcul ne seront pas les mêmes. Donc vous voyez qu'en termes de clarification, c'est tout simplement ubuesque.
Bah c'est ce qu'il a dit, moi c'est ce que j'ai compris, en fait, que les augmentations se feraient en fonction de
degré d'exposition.
Exactement, à la prochaine réforme. Mais
et donc là,
bon courage à ceux qui vont faire les calculs. Ouais. Comment se fait-il, nous dit Marc-Emmanuel, ça rejoint ce que nous sommes tous en train de dire, comment se fait-il qu'on soit incapable, au fond, en France, de faire une réforme sans que ça passe par des conflits de part et d'autre? Dominique Méda.
On aurait pu, en effet... C'est intéressant, il y a eu pas mal de propositions ces derniers jours qui ont été faites, par exemple ce matin sur votre antenne par Daniel Cohen, qui disait on aurait pu s'occuper simplement des polypensionnés, parce que c'est ça la vraie question. Mmh. Il y a Thomas Piketty qui a proposé, qui à une époque était en faveur de la réforme à points et qui là dit non, en fait cette réforme c'est pas bien, il faut faire une réforme universelle, mais autrement, faisant des taux de remplacement dégressifs en quelque sorte, selon les revenus des gens. Donc on aurait très bien pu réformer calmement et au moins mettre On aurait pu mettre plein de grosses questions sur la table. Par exemple, il y a deux questions majeures, c'est quel est le partage des richesses entre les retraités et les actifs. Ça, on n'en parle jamais. La question de quelle part du PIB on va consacrer aux retraités versus plein d'autres besoins sociaux. Par exemple, les jeunes. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, on est sympa avec les seniors, mais il y a aussi les jeunes. Il vaudrait mieux s'occuper des jeunes. Donc voilà, il y a plein d'énormes questions sur la table. On aurait pu en faire des débats de société quand même très 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 intéressant et important. Et le deuxième sujet, c'est pourquoi on n'augmente pas les cotisations. Moi, j'avais écrit un papier avec des collègues où on montrait que avec une toute petite augmentation des cotisations salariales, on pouvait s'en tirer.
Yael.
Mais c'est un peu tarte à la crème ce que je vais vous répondre, mais c'est le béaba. C'est-à-dire qu'il faut d'abord accorder ses violons au sein d'un gouvernement et avoir une réforme claire. Et tout le monde avance en pack. L'exécutif fait bloc et déroule un message clair et limpide et unique sur le prélèvement à la source. Souvenez-vous, cette réforme était hyper anxiogène. Même Emmanuel Macron avait failli y renoncer. Et puis il y avait derrière Bercy, Gérald Darmanin qui était extrêmement clair. Tout le monde a suivi. Aujourd'hui, qui s'inquiète encore du prélèvement à la source? Et puis, autre élément, si on se repasse le film de 2017 à aujourd'hui, des déclarations contradictoires des uns et des autres entre Delevoye, Buzyn, Édouard Philippe, sur la clause du grand-père, sur l'âge pivot. Âge pivot, souvenez-vous qu'Emmanuel Macron avait rejeté le 28 août sur France 2. C'est pas vieux quand même. Et finalement, il revient là, par un dîner à l'Élysée hier soir. Voilà, c'est difficile à suivre. Et du coup, on entend des mots comme ça, âge pivot, on entend durée de cotisation allongée, on entend âge légal, et on ne sait plus très bien où on va.
Et sur les régimes spéciaux, peut-être que l'un de vous va pouvoir m'éclairer, mais moi, j'ai pas réellement compris, en fait, ce qui allait se passer sur les régimes spéciaux désormais. Est-ce que ça va se passer en négociation est-ce qu'on renvoie la patate chaude en gros à chaque entreprise et c'est comme ça qu'on négociera, parce que les régimes spéciaux sont morts certes, mais sous quelle forme on n'en sait rien. Est-ce que finalement on est dans une clause d'un autre membre de la famille? Moi j'ai pas exactement tout compris.
Moi j'ai compris votre première position, mais comme il y aura personne autour de la table, ça va être super compliqué.
Oui, il a renvoyé à la RATP et à la SNCF le soin d'ouvrir ces négociations, et d'ailleurs Édouard Philippe s'est bien privé de dire ce midi l'année de transition. Nous on la connaît. Hein, les choses ont fuité par les conseils, etc. Mais ça n'a pas été dit publiquement. C'est 1985.
Est-ce qu'on parle de passage en force, du coup, Jérôme Fourquet ou Yael Gauze? Est-ce qu'on parle d'un passage en force, là, ou pas? Notamment, vous parliez de l'âge pivot de 64 ans, décidé finalement au dîner d'hier. Est-ce qu'on est là-dedans, ou pas?
Alors, les précédents de 2010, précédente réforme des retraites, et 1995, un grand conflit social, nous ont montré que tout ça pouvait s'étirer et s'étaler sur de nombreuses semaines. Alors, il y a bien évidemment la trêve des confiseurs qui va arriver dans une dizaine de jours maintenant, mais on est aujourd'hui à l'ère de l'info en continu, mais on sait que des sujets aussi majeurs que cela, hein, les retraites, ça pèse quand même énormément dans la vie de notre société, ça ne peut pas forcément se régler. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est sur un passage en force? Je pense que l'histoire n'est pas écrite, et que nous allons avoir encore un certain nombre de rebondissements. Ce maintien de cette notion de l'âge pivot a eu comme effet de faire sortir du bois, ou en tout cas de ses gonds, Laurent Berger de la CFDT. Est-ce qu'on en reste là? Est-ce que la CFDT parvient à effacer cette mesure? Je pense que tout ça va se jouer, se nouer dans les jours suivants. Donc il y a peut-être une tentative de passage en force, mais la bataille n'a pas encore été, de mon point de vue, complètement gagnée, loin s'en faut.
Qu'est-ce qui se passe hier soir, Yael, pour qu'on revienne sur cet âge pivot, sachant très bien que le gouvernement va se mettre à dos le seul qui pouvait être un allié, qui est la CFDT?
Oui, c'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est pas un passage en force, c'est un passage par l'opinion. Alors ça peut être considéré comme un passage en force, mais c'est un passage par l'opinion. On avait tous compris, moi les conseillers qui m'en parlaient à l'Élysée jusqu'à maintenant disaient, on ne veut plus se retrouver seul face à la rue. On ne veut plus revivre les gilets jaunes, on veut l'acte 2 vraiment, c'est-à-dire avoir des partenaires, un paysage politique et syndical reconstitué où on n'est pas seul face au chaos. Et qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe hier soir? Ils considèrent que, il faut être responsable budgétairement. Et que la CFDT, effectivement, on peut-être s'en passer. C'est le pari qui est fait, hein, parce que Laurent Berger n'aura pas le courage, c'est ce qu'on subodore, d'aller manifester contre une réforme qui est son bébé finalement, la retraite à points. Donc on joue un petit peu sur une tension là au sein de la CFDT. Est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'on jette la réforme à points pour uniquement s'opposer à un âge pivot, à une mesure budgétaire? Donc ils font ce pari-là, et ils font finalement le pari de se retrouver là, seuls. pour mener la réforme et sans alliés. Ça, c'est ça qui va être décisif dans les jours qui viennent. C'est le gouvernement seul face à l'opinion.
Et je réponds partiellement à votre question, puisqu'à l'instant même, l'AFP nous apprend que la CFDT appelle à la mobilisation le 17 décembre contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Jusqu'à présent, il n'y avait que la CFDT cheminot qui était dans la rue, c'est réellement.
Donc Paris raté.
Pour l'instant, en tout cas, peut-être Paris raté.
Paris raté, parce qu'ils pensaient bien quand même que la CFDT, justement, allait rejoindre le mouvement. Donc moi, je ne comprends pas. Non, mais c'est cette obsession quand même de l'équilibre budgétaire, ou du moins du déficit, enfin les 3% de machin. Comment Macron peut-il dire, comment Emmanuel Macron peut-il dire à la fois les 3% c'est une notion désuète, et en même temps être complètement obsédé par cette question de l'équilibre budgétaire qui chaque fois nous met dedans. Je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on a fait une réforme de l'assurance chômage extraordinairement punitive, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Alors il y a un argument à Matignon, c'est de dire nous sommes des gens raisonnables qui parlons à des gens raisonnables. Ça revient beaucoup. C'est on parle à la raison, on parle pas à l'émotion. Et quelque part, là, c'est la stratégie de l'électorat de droite qu'il ne faut pas perdre pour 2022. Il faut garder cette cohérence électorale-là avec l'AREM et les LR.
Jérôme Fourquet.
Alors, si on sort du débat uniquement économique et qu'on aborde des aspects politiques, effectivement, on a un déplacement du centre de gravité de la majorité présidentielle depuis le début du quinquennat en direction de la droite. Et ça s'est vu notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment des européennes où toute une partie de l'électorat de droite a voté pour La République En Marche et a abandonné la liste de droite traditionnelle, au moment même où En Marche perdait une partie de ses soutiens, j'allais dire historiques, initiaux, de gauche. Parmi ses soutiens initiaux de gauche, il y avait la CFDT. Dans les enquêtes que l'IFOP a pu mener au moment de la présidentielle, les sympathisants de la CFDT avaient été 40% à voter pour Emmanuel Macron au premier tour. C'était de loin le groupe de sympathisants syndicaux qui était le plus favorable à Emmanuel Macron. Si ce qui s'est passé, comme Yael Gauz l'a raconté tout à l'heure, est confirmé, eh bien c'est qu'on acte qu'on est en train de choisir son camp et de privilégier la satisfaction d'un électorat de droite très majoritairement retraité.
Qui n'est pas concerné par la réforme, n'est pas à inquiéter.
Qui est concerné au sens où cette partie de la population adhère à l'idée qu'on pérennise et qu'on stabilise.
Oui, qu'il faut être bon gestionnaire.
Pour pérenniser la rente dont nous-mêmes on bénéficie. Et donc, quelque part, il y a un choix des armes qui est fait, c'est-à-dire que si c'est ça qui est confirmé, on fait l'impasse sur les gens qui avaient voté pour nous, qui venaient plutôt de la CFDT, et à qui on leur préfère des gens qui avaient, par exemple, voté pour François Fillon et qui sont majoritairement retraités.
Dominique Médard.
Moi, ma crainte, c'est que là, on mette la France là à feu et à sang, et que le résultat de tout ça, à la fois par désir d'ordre, parce qu'en effet, faut penser à tous ces gens qui regardent les chaînes en continu, en état absolument effondré de ce qui se passe, par désir d'ordre et par colère, tout simplement, les gens finissent par voter pour le Rassemblement National. Et ça se finira comme ça. Mais ça, on avait été nombreux à dire que le risque, après Emmanuel Macron, c'était Marine Le Pen.
On a deux témoignages qui viennent au fond corroborer ce qu'on disait à l'instant, notamment sur les jeunes. Voici Théo, qui a 27 ans, qui est donc né en 1992, qui a commencé à travailler à 19 ans, nous dit-il, à temps plein, entrecoupé de quelques mois de chômage dans le privé comme dans le public. Il dit « Je soutiens les manifestants, mais je me sens désabusé. Je suis presque sûr que ma génération n'aura tout simplement pas de retraite, ou sinon de façon quasi certaine, une retraite de misère, quoi que le gouvernement promette. » Et dans le même ordre d'idée, cet autre témoignage, c'est celui de Delphine qui dit « Personnellement, je suis pour une réforme. Je suis née en 1978, mais quoi qu'il en soit, j'ai reçu le message. Je vais encore plus épargner pour ma retraite. Plus d'achats, plus de soutien à l'économie française, me considérant comme une génération sacrifiée. »
Ils sont intéressants, ces témoignages, parce qu'ils correspondent pleinement à ce que nous, on mesure aussi dans nos enquêtes. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, est très fortement ancré dans ces jeunes générations l'idée que le système de retraite qui a bénéficié ou qui bénéficie à leurs parents et à leurs grands-parents ne sera plus pour eux. Et que donc soit on est dans la résignation, soit pour ceux qui ont les moyens, les financiers ou psychologiques, on se prépare à se constituer soi-même son épargne, soit en devenant propriétaire, en investissant dans l'immobilier qui se porte très bien, soit en basculant de manière individuelle vers une forme de capitalisation. Et donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il n'y a pas, pour l'instant, autant de jeunes que cela dans les cortèges syndicaux, contrairement à 95.
Mmh. Oui.
Dominique Médard.
Mais c'est intéressant de voir en ce moment aussi quand même tous les murs de Paris, et peut-être d'autres villes, avec des placards de publicité des assureurs privés, hein, qui arrivent là comme des vautours en se disant tiens. Et en effet, là, quelle réaction on peut avoir quand on a peur de manquer des retraites publiques, c'est d'aller vers les retraites privées. Et ça rejoint une espèce d'évolution qui avait été portée à une époque par l'OCDE et qui relève un peu du néolibéralisme, quoi. Hein. C'est d'aller vers un état social résiduel, c'est-à-dire et les trois piliers. Donc, faudrait qu'il y ait un pilier public, pas trop cher, pour les pauvres, voilà, très bien. Et puis tout le reste, ça serait soit les entreprises, des couvertures conventionnelles, soit l'épargne privée. Et on est en train d'aller vers ça.
Et est-ce que cet état d'esprit-là, notamment ce qu'on a lu là, peut maintenir la popularité pour l'instant du mouvement? Parce que vous le disiez, il y a toujours un moment dans ce genre de grève, on parle des transports. Le premier jour, on fait du télétravail. Le deuxième jour aussi. Après, ça devient extrêmement compliqué. Ouais. Les métros sont ultra bondés. C'est difficile partout. Les bouchons sont vraiment très importants. Donc, on va arriver un moment à ce point de bascule et à ce point de rupture. Est-ce que ce genre de témoignage-là, donc ces interrogations-là, selon vous, Jérôme Fourcault, vous le sondeur, ça maintient en vie un mouvement, ou est-ce que de toute façon il faudra gérer autre chose dans les jours qui viennent là?
Alors, deux choses. La première, c'est qu'on a souvent une lecture très francilienne de ce conflit, en disant la galère dans les transports, qui est une réalité, les bouchons. Mais en province, pour les gens qui ne sont pas tributaires de la SNCF et qui vont au travail en bus, à pied ou en
ni
voiture...
Ni de la RATP.
Mais en province, par définition, il n'y a pas des RATP, sont très peu concernés. Par ce mouvement. Deuxième point, sur l'impact sur l'économie, encore une fois, on fait le parallèle avec 95. En 95, le fret ferroviaire, c'est 20% du fret de marchandises au plan national. Aujourd'hui, c'est 10%. Mm-hmm. Donc on voit que l'impact sur l'économie est moindre. Troisièmement, il y a effectivement des possibilités ou des scénarios d'usure de la popularité, dans le sens où la galère dans les transports, les tensions qui peuvent exister aussi vis-à-vis de son employeur, peuvent, au bout d'un moment, retourner une partie de l'opinion. C'est pas ce que nous avions vu en 95, où, au niveau national, le soutien avait même progressé au fur et à mesure que le mouvement s'était... Donc il n'y a pas de règle absolue en la matière, et on rappellera, dernier point, que plus proche de nous, sur un conflit qui n'avait rien à voir, au moment de la crise des Gilets jaunes, certains avaient parié sur le fait que les scènes de violence et de casse produisent un retournement de l'opinion, ce qui ne s'était pas non plus produit. Donc il n'y a pas forcément de règle absolue en la matière. Les syndicalistes insistent sur un argument qui peut faire mouche, qui consiste à dire peut-être qu'il vaut mieux en baver quelques jours dans les transports pour sauver une retraite qui nous pénalisera pendant des années. Et je pense que, même si c'est pas de gaieté de cœur, une partie des franciliens, parce qu'encore une fois, les provinciaux sont moins concernés, sont aujourd'hui dans cet état d'esprit-là. Toute la question est de savoir s'ils le seront encore quand on va s'approcher vraiment des fêtes où là, psychologiquement, on bascule dans autre chose.
Et on a fait, nous, un téléphone sonne hier où on a bien compris que l'économie pouvait absorber ces chocs-là. Et en comparant avec 95, avec les Gilets jaunes, on s'est rendu compte effectivement que le choc de l'économie était beaucoup moins important que ce qu'on pouvait imaginer après un conflit longue durée.
C'est peut-être aussi pour ça que l'épisode du Black Friday a été aussi fortement martelé cette année pour anticiper les rentrées commerciales et les carnets de commandes et les chiffres d'affaires en prévision d'un fin de mois compliqué.
Et les 17 milliards d'euros liés à la crise des Gilets jaunes ont finalement maintenu aussi l'économie à flot, la consommation à flot. Il y a des études néo-keynésiennes qui ont montré que finalement, voilà. Juste pour abonder dans le sens de Jérôme, moi j'ai reçu un texto d'un de nos auditeurs pas plus tard que ce midi, c'est Bernard Poignant, l'ancien maire socialiste de Quimper, qui dit « Sur votre antenne, je n'entends que les problèmes en Ile-de-France et les autres alors, venez faire un reportage en Bretagne. Ici les problèmes sont quand il n'y a plus de carburant, alors il y a la queue aux stations-service. C'est là que ça se passe et non aux stations de métro. Sur le problème...
Oui, c'est quand l'outil de production est touché que ça rend, ça donne une couleur différente au mouvement. On n'y est pas pour l'instant, en effet.
Pour l'instant, les désagréments causés dans plusieurs enquêtes d'opinion, les désagréments causés par les grèves et les manifestations sont imputés au gouvernement majoritairement à 60% et à 40% aux syndicats. Donc pour l'instant, les désagréments liés à ce mouvement social pèsent sur la popularité du gouvernement et pas sur ceux qui mènent le mouvement social.
Dominique Médaly.
Ce qui va être important dans les jours qui viennent, me semble-t-il, c'est si les gens vont comprendre qu'en fait, tout le monde est concerné. Parce que jusqu'à maintenant, on se dit, c'est une réforme contre les régimes spéciaux, c'est bien fait pour eux, ils sont des privilégiés, etc. Mais là, je pense que tout le monde comprend que, ah ben non, c'est aussi moi qui suis en cause, moi qui vais subir des trucs, ou mes enfants. Et là, l'opinion peut se retourner quand même.
Comment peut-on imaginer, nous demande Anne, l'évolution du mouvement de grève et particulièrement à la CNCF, surtout le 21 décembre, quand je pars en vacances, longuement attendue et méritée. Merci. Mais mine de rien, Jérôme Fourquet, elle tient cette question. Hein.
C'est les fêtes. C'est-à-dire que là, on a dit encore une fois, c'est d'abord et avant tout les franciliens qui sont pénalisés. Si le mouvement se poursuit jusqu'au 21 décembre, les congés scolaires commencent le 20 au soir, là, on a toute une partie de la population qui, à son tour, va être concerné et touché, et à un moment où, psychologiquement, on a envie de tout sauf de ça. Et donc là, c'est peut-être aussi ça que, de manière un peu machiavélique, le gouvernement joue, en disant, est-ce qu'ils auront le cran de tenir jusqu'au 20 décembre? Et donc, si le mouvement s'arrête juste avant, on enjambe la trêve des confiseurs, et c'est pas évident, dans une dynamique sociale, que le conflit reprenne le 3 ou le 4 janvier.
Je pense qu'une question très importante, ça va être de savoir si les jeunes rejoignent ou pas le mouvement. Parce qu'on sait très bien que les jeunes, c'est ce qui fait peur au pouvoir. Hein. Souvenez-vous, les mouvements avec le CPE, c'est ça qu'avait fait. Donc, si les jeunes comprennent qui sont les premières victimes, en quelque sorte, de cette affaire, et qu'ils vont dans la rue, là, je pense que le gouvernement peut se faire du souci.
Mais là aussi, le calendrier ne plaide pas pour ça. Parce que dans ce cas-là, c'est rendez-vous en janvier. On arrive vraiment à la fin d'un cycle scolaire avant les vacances, là. Donc, c'est pas forcément évident.
Sauf si c'est demain.
Oui, si c'est demain.
Alors, une question de Bernard. L'idée de se demander aussi si tout est à jeter dans cette réforme des retraites. J'ai une épouse qui a commencé à travailler à 17 ans. Elle a fait un travail très fatigant. Elle était tisserand. Elle a plus de 75 ans. Elle est obligée de continuer à travailler pour qu'on puisse vivre. Nos retraites combinées sont inférieures à 1000 euros. Moi, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué ces derniers jours et aujourd'hui, les toutes petites retraites seront valorisées. Il ne doit plus y avoir de retraite qui soit inférieure à 1000 euros, Jérôme Fourquet. Là-dessus, pour ces gens, pour les artisans, pour les agriculteurs, il se passe quand même des choses intéressantes dans cette réforme.
Alors, bien sûr, si c'est confirmé, dans ce cas-là, le gouvernement doit pouvoir taper sur ce clou-là, essayer de garder, de gagner la confiance d'une partie de la population. Mais comme le rappelait Yael Gauss tout à l'heure, les simulateurs et les projections qui pourront être faites ne seront disponibles qu'avant, pas avant un an. Et dans le cas de la femme de cet auditeur, apparemment, elle a sans doute fait différents métiers.
Sûrement.
Et donc, on est sur, là encore, des cas qui sont complexes et auxquels on ne pourra pas répondre précisément avant plusieurs mois.
Et en même temps, c'est pour une carrière complète, faut toujours le rappeler, et on y est presque, hein, puisque moi, d'après ce que j'ai lu, on est aujourd'hui à autour de 980. Donc en 2022, on serait de toute façon à 1000 euros. Donc là, ce serait pas une nouveauté.
Voilà ce que nous dit Laurent. Il dit « J'ai engagé une reconversion professionnelle, mais je suis considéré comme trop vieux. Donc c'est bien de repousser l'âge de la retraite, mais si les employeurs nous considèrent comme trop vieux, dès qu'on a 50 ans, comment va-t-on faire ?»
Non, mais c'est toute la question de cet âge pivot et de 64 ans, puisqu'on sait très bien, Laurent Berger l'a répété, qu'il y a plus de la moitié des personnes, quand elles arrivent à la retraite, qui sont déjà plus en emploi de toute façon. Et c'est toute la question dans notre société du travail. Quoi. Le travail est devenu pour plein de gens complètement intenable. Donc il y a une multitude de gens qui ne peuvent pas aller, même pas jusqu'à 62 ans de toute façon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens, ils vont s'appauvrir considérablement. Ils vont devoir s'arrêter avant les 64 ans. Donc ils seront dans des espèces de no man's land et ils auront la décote. Ils se prendront dans la figure la décote et donc un appauvrissement très fort, quoi.
Arnaud veut revenir sur cette histoire de l'année 1975. Est-ce qu'avoir annoncé que les personnes nées avant 75 sont exonérées de la réforme des retraites ne constitue pas l'aveu que cette réforme n'est finalement pas aussi bonne et juste que prétendue? On a entendu cet argument dans la bouche de certains syndicalistes, Yael Gauz.
Il y avait un autre élément comme ça qui créait du trouble, c'était l'idée, je crois que c'est les Échos qui en parlaient la semaine dernière, de cadeaux de bienvenue pour compenser sur certaines catégories de métiers l'entrée dans le système par points. Ça fait partie là encore des clarifications qu'il va falloir un peu muscler côté gouvernement, parce que ça crée évidemment du trouble. L'idée de passer à la génération 75, c'était aussi et surtout de ne pas peut-être de diviser pour mieux régner, de séparer deux classes d'âge. Je ne sais plus ce que ça représente en millions d'actifs que l'on sort de la réforme. La génération 73, c'était 1 800 000 actifs de mémoire qui, du coup, n'étaient plus du tout concernés par cette réforme des retraites anxiogène au moment où elle était présentée. Donc là, aujourd'hui, c'est encore un peu plus. Donc, bonjour les repas de famille à Noël autour de la dinde pour dire « Mais je m'en fiche, moi je suis pas concerné et toi t'es concerné. » Ça a peut-être créé de la solidarité intergénérationnelle.
La fille de 73 a failli devenir autre chose qu'une chanson de Philippe Delerme. Pourquoi vos intervenants indiquent-ils que les retraités vont perdre de l'argent, nous demande Stéphane, alors que la valeur du point, au fond, n'est pas connue ni définie. Allez-y, Dominique Médard.
Parce qu'à partir du moment, je voulais répondre aussi sur l'histoire des gains, qu'on gagne cette réforme, et reparler des femmes. Donc c'est un petit peu le même sujet, que dans un régime à points, et là, dans la mesure où on va prendre en considération la totalité de la carrière, au lieu soit des 25 meilleures années pour le régime général, soit des 6 derniers mois pour la fonction publique, eh bien, obligatoirement, on va prendre en considération, on va compter des mauvaises années, quoi. Donc, de toute façon, on ne peut qu'y perdre. Par rapport à ce qu'aurait été la situation avec le système actuel.
Mais là, je ne suis pas complètement certain et je ne suis pas non plus le spécialiste de la question, mais on ne raisonne plus par trimestre, on raisonne par points. Donc même quand on fait moins de 150 heures, on a des points, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ouais. Donc mais en effet, quelques heures de travail chez McDo rapporteront un petit peu, mais je pense que la perte qu'on obtient en calculant sur la totalité de la carrière, donc 43 ans ou plus, versus les 25 meilleures années, obligatoirement fait une perte. Et notamment, puisque Édouard Philippe disait que les femmes étaient les grandes gagnantes.
Par exemple.
Encore plus pour les femmes, puisqu'on sait que ce sont les femmes qui sont à temps partiel, qui ont des années d'interruption, etc. Donc là, il me semble que d'ailleurs.
Moi, j'ai compris là-dessus que les trous étaient comblés, et que par ailleurs, ils seraient comblés dès le premier enfant et non pas en attendant le troisième enfant, et même au-delà de trois enfants,
oui,
avec une majoration de 2%.
C'était dit par Édouard Philippe ce midi.
Oui, mais encore toujours sur les femmes, ce qu'elles perdent, là, les femmes, c'est les majorations de durée d'assurance, par exemple. Les femmes dans le régime général avaient le droit à 2 années par enfant. Donc vous avez 2 enfants, vous aviez 4 années de majoration d'assurance. Ça, elles n'apparaissent plus du tout. Donc dans la comparaison que fait le gouvernement, on oublie un peu des choses qui appartiennent au système actuel en faisant comme si, en effet, le nouveau système apportait des choses en plus. Mais non, il y avait aussi quand même beaucoup de choses bonnes dans le système actuel.
Après, il y a un principe de réalité très général qui ne peut pas échapper non plus aux Français. C'est là-dessus que compte le gouvernement, sur ce principe de réalité aussi. C'est qu'en 1960, vous aviez 4 cotisants pour un retraité et qu'on est passé aujourd'hui à
1,7
de cotisants par retraité. Donc forcément, le gâteau n'est plus le même et la population vieillissant, ok boomer, on entend beaucoup ça en ce moment, forcément, à la fin, la question se pose de la pension, effectivement.
Mais d'où la nécessité en effet de tout mettre sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on préfère baisser les taux de remplacement? Augmenter les cotisations? Pourquoi pas revenir sur toutes les grosses exonérations de cotisations sociales données aux entreprises? Enfin bref, il y a plein de solutions et là, on fait comme s'il n'y en avait qu'une.
Ils retiennent l'âge pivot, effectivement.
Et juste pour compléter ce que disait Yael Gauze, la fin du baby-boom, démographiquement, c'est daté entre 73 et 75. Hein, et donc, c'est pas pour rien non plus.
Oui, qu'on a choisi cette date-là.
C'est juste là, voilà.
Alors, on a une question de Yves du Finistère, voilà, que je cherchais, qui dit « On nous a parlé d'équité pour les régimes spéciaux, mais je comprends bien qu'on ne touchera pas à ceux des militaires ou ceux des policiers. Je pense qu'il n'y a pas équité. » Alors, les militaires et les policiers sont des carrières particulières également, mais je voudrais revenir aussi sur cette idée de lancer les uns contre les autres. Est-ce que ce risque existe réellement, qu'on se mette finalement chacun à nous regarder en chien de faïence avec nos anciens vieux 42 régimes et ce qu'on en fait aujourd'hui, en fait?
Alors, on va recréer d'autres lignes de clivage. Il ne faut pas minimiser le fait qu'il y en a déjà dans la société actuelle. Hein. C'est-à-dire que les régimes spéciaux, toutes les enquêtes, il y a une grande majorité de Français qui veulent qu'on arrase tout ça et qu'on remette tout à plat. Donc, il ne faut pas dire que le système est idéal. Mmh. Néanmoins, maintenant, typiquement avec cette année de naissance de 75, on va créer de facto là une nouvelle ligne de faille. On l'a dit tout à l'heure, actuellement, on a les régimes spéciaux, la fonction publique d'un côté et le régime général de l'autre. Et puis, on a, en dehors des actifs, les étudiants qui disent que eux n'auront droit à sans doute pas grand-chose et les retraités qui soutiennent majoritairement le statu quo pour en bénéficier. Donc, on a déjà cette opposition-là. Maintenant, on aura peut-être aussi, au sein du monde du travail, une opposition générationnelle entre ceux qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas, typiquement dans l'éducation nationale, ceux à qui on aura accordé une revalorisation parce qu'ils sont nés dans les années concernées, et ceux qui n'y auront pas droit. Et donc, je vous laisse imaginer, par exemple, les débats en salle des profs, à 2 ans près, est-ce que vous avez une revalo ou pas, etc., etc.
À 2 ans, à 1 an près, voilà. À 6 mois près, voilà. Allez savoir. Juste une dernière chose, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une nouvelle manifestation qui est prévue demain, théoriquement. Qu'est-ce qui se passe? Édouard Philippe a dit, ma main est tendue, les négociations ne sont pas rompues. Qu'est-ce qui se passe politiquement? Est-ce qu'il y a des rendez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou est-ce que là, on en a pour au moins 2 ou 3 jours, voire plus, à se regarder et attendre et voir?
Non, mais j'ai hâte de voir ce que va dire Édouard Philippe, il est invité de TF1 ce soir et sur la même chaîne, sur la chaîne concurrente France 2, c'est Laurent Berger. Donc là, il y a vraiment un match qui va se jouer sur 2 chaînes à distance, là dans quelques minutes, on va regarder.
Allez, la Champions League à 20h. Merci beaucoup, merci à tous vraiment, merci pour vos très nombreuses questions.